Chapitre 8. Stéphane n'a pas perdu son temps. Le vendredi suivant, un peu avant 18h, Thibault m'emmena à la gare chercher Stéphane avec la voiture de maman. Le train annoncé avait 15 minutes de retard, entrant en gare 25 minutes après l'heure prévue. Stéphane sauta sur le quai, l'air radieux. Je faillis ne pas le reconnaître car il s'était coupé les cheveux et rasé de près. Ainsi soigné, il paraissait tout jeune. Il me fit la bise et serra chaleureusement la main de Thibault. À la maison, les jumeaux lui sautèrent dessus, son allure simple et franche fit bonne impression aux parents, qui lui firent un accueil tout sourire. Nous passâmes tout de suite à table, et sur la demande générale, il dut prendre la parole pour se présenter. Stéphane nous parla de sa passion, les bateaux. Il nous raconta son travail sur le chantier, où, sous la gouverne de son patron, il restaurait et fabriquait des bateaux en bois selon la plus pure tradition. Il nous raconta quelques anecdotes, et notamment la fameuse facture que j'avais rédigée moi-même en la chargeant un peu et qui avait été payée rubis sur l'ongle par un client ravi du travail et des délais. Il ne nous donna pas les raisons de son déplacement sur Lyon, personne ne lui posa de questions indiscrètes et je fus bien aise que les jumeaux, et particulièrement Agnès, se soient contentés d'écouter sans rajouter leur grain de sel. Le dîner terminé, je proposai à Stéphane de me suivre dans ma chambre où nous pourrions avoir une conversation plus discrète. Nous nous assîmes côte à côte sur le lit, je n'avais qu'une chaise et je manquais de fauteuil. « Je suis super contente de te voir. C'est vraiment génial que tu aies pu venir jusqu'ici. » Stéphane se contenta de sourire en fixant mon visage comme s'il voulait en faire une photo plus fidèle que celle qu'il gardait dans son cœur depuis que nous nous étions quittés à la gare d'hier. Après quelques instants de silence, je repris la parole. « Tu sais que tu es beaucoup mieux comme ça, avec les cheveux coupés et la barbe rasée. Mais en montant l'escalier, tu as perdu ta langue ?» Non, mais j'ai tant de choses à te dire que je ne sais par où commencer. Et puis tu m'intimides un peu. Je t'intimide, moi? Quand tu m'as réveillé et chassé du hangar à bois, la première fois que tu m'as vu, tu n'avais pas l'air timide. C'est vrai, mais j'étais dans mon domaine et je ne te connaissais pas. Bon, je vais essayer de t'aider. Qu'es-tu venu faire à Lyon, si ce n'est pas indiscret, bien sûr? Bien sûr que non. Je voulais t'en parler, d'autant plus que c'est un peu toi qui m'as poussé à faire ce voyage. Je t'ai proposé de venir jusqu'ici pour le week-end, pas de faire le voyage jusqu'à Lyon. Mais si, c'est toi, mais indirectement. Mais il faut que je te raconte tout depuis le début. Après sa convalescence, mon patron est rentré chez lui. Dès le lendemain, il est venu au chantier. Il n'était pas encore très brillant. Il s'est remis petit à petit au boulot, mais il n'avait plus la pêche que je lui connaissais. Un soir, une semaine après son retour, il m'a dit qu'il fallait qu'on parle tous les deux. On s'est installé dans le bureau, il a appelé sa femme pour lui dire qu'elle ne s'inquiète pas, qu'il rentrerait plus tard. D'abord, il m'a félicité pour tout le travail que j'avais fait durant son absence. Ensuite, il m'a dit qu'il commençait à se sentir vieux et fatigué et qu'il avait beaucoup réfléchi durant ces longues semaines à tourner en rond dans une chambre d'hôpital. De ses réflexions a surgi une idée. Pourquoi ne reprendrais-je pas le chantier à sa suite? Mais vous savez bien que je n'ai pas d'argent. Avec quoi voulez-vous que je vous achète le terrain, le bâtiment, les machines, le stock de bois et la clientèle? Lui ai-je répondu. Alors il m'a déclaré. Laissons ces histoires de pognon de côté. Dans ma vie, l'argent ne m'a jamais vraiment intéressé. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que ce chantier qui est ma passion et que j'ai monté de toutes pièces il y a 30 ans, qui est un peu mon enfant, puisse continuer à vivre. Je n'ai pas d'autre enfant et donc personne à qui transmettre ce patrimoine. J'ai déjà fait des démarches pour chercher un repreneur. Personne de sérieux ne s'est présenté. Si je ne fais rien, dans 2 ans, quand je partirai à la retraite, le terrain et l'atelier seront vendus, les machines bradées, et moi je resterai chez moi, avec la consolation d'avoir un petit pécule à la banque. Je n'ai pas envie de ça. J'ai assez d'argent pour vivre. J'en ai parlé à ma femme, elle est d'accord. Si tu acceptes de reprendre le chantier, de poursuivre la construction et la réparation des bateaux en bois, je te laisse le tout pour rien, ou pour le minimum qu'on nous imposera. Je n'aurai pas mon petit pécule à la banque, mais je pourrai venir te voir travailler, peut-être te donner un conseil ou un coup de main. Tu me feras le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Tu seras la joie et la consolation de ma retraite. Tu feras vivre mon enfant. » Imagine, Emmanuel, je ne savais pas quoi lui dire. Il m'a dit de prendre le temps de réfléchir et de ne pas répondre trop vite. Mais en même temps, il a rajouté des dizaines d'arguments, tous plus favorables les uns que les autres à son projet. J'aurais un emploi stable, je n'aurais pas besoin de chercher un autre patron, je pourrais développer le chantier, prendre des ouvriers, la mode des beaux bateaux en bois revient, il faut en profiter, etc., etc. Mais c'est trop génial! Tu te rends compte, la nuit que j'ai passée? Je n'ai rien dormi. J'ai failli t'appeler, car je ne savais pas avec qui partager ça. Pourtant, je n'ai pas osé. J'avais peur de tomber sur tes parents, et je ne savais pas si ça t'intéresserait. Vraiment, c'est trop bête, tu aurais dû. Mais tu pouvais quand même appeler tes parents? Non, mes parents sont trop occupés à se faire la guerre. Et comme je ne veux entrer dans le jeu ni de l'un ni de l'autre, je ne les intéresse pas. Alors, qu'as-tu répondu? J'ai beaucoup hésité. C'était tentant de dire oui, mais ce n'était pas forcément la bonne réponse, car ensuite il faudra assurer. Et ça, je ne sais pas si j'en suis capable. C'est là la véritable question. Alors, qu'as-tu répondu? Tu es capable? Franchement, non. C'est ce que j'ai dit à mon patron le lendemain. Il m'a demandé en quel domaine je ne me sentais pas à la hauteur. Je lui ai répondu que pour la partie technique, soutenue par ses conseils, j'étais à peu près sûre de m'en sortir, mais pour la partie administrative et pour tous les problèmes d'argent, je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Alors il m'a félicité pour ma clairvoyance, c'est le mot qu'il a dit, et il a ajouté qu'il était bien d'accord avec moi sur ce plan-là, je n'avais pas du tout le niveau. Mais ce n'était pas une raison suffisante pour refuser sa proposition. Il fallait seulement que j'accepte d'apprendre ce que je ne savais pas. Tu te rappelles, tu me l'avais déjà dit, tu devrais suivre des cours de gestion. Mon patron s'est excusé de n'être pas assez compétent dans ce domaine pour pouvoir m'aider, mais il avait son idée et s'était déjà renseigné. Il a trouvé sur Lyon une école de gestion et management pour adultes qui propose des formations en alternance sur 2 ans. Il ne me restait plus qu'à dire oui. Alors tu as fini par dire oui et tu es allé t'inscrire à l'école à Lyon. On ne peut rien te cacher. Il va falloir fêter ça. Allez, demain, on s'en occupe. Mais je n'ai encore rien fait. Si tu as pris ta décision, ce n'est pas rien. Mais j'y songe. Les semaines où tu seras sur Lyon, tu pourras venir passer le week-end ici? C'est très gentil. Tes parents m'ont super bien accueilli. Tes frères et sœurs sont super sympas. Ta maison est géniale. Mais vous risqueriez de me trouver vite encombrant, et puis j'ai besoin de retrouver souvent la mer et mes bateaux. Ce sera comme tu voudras. Tu viendras quand ça te fera plaisir, je ne peux pas te dire mieux. C'est tout ce que tu avais à me dire? Non, ce n'est pas tout. J'ai essayé de faire avancer ton enquête. Au fait, tu comptes toujours venir cet été? Bien sûr, j'en rêve. Et puis je dois aller au bout des recherches pour Antoine et Yvette. Je suis vraiment décidée à venir dès mes examens terminés. Sauf que je n'en ai pas encore parlé à mes parents. Après ce qui est arrivé la dernière fois avec Thibault, j'ai peur qu'ils soient un peu hésitants. Il faut que je trouve une solution, que je leur présente la chose de façon à les rassurer complètement. Tu sais que tu peux venir t'installer à la maison. Mes parents ne se sont pas encore mis d'accord pour le divorce, donc la maison n'est pas encore en vente, donc elle est toujours à ma disposition. C'est-à-dire à la tienne. Je te remercie, cela me tente bien, mais aller m'installer comme ça chez un copain, même si le copain c'est toi, je ne suis pas sûre que ça les rassure vraiment. À moins que quoi? Si je venais avec des copines, ça te dérangerait? Ben, c'est vrai que ce ne serait pas pareil. Mais si tes copines sont mignonnes, pourquoi pas? Mais bien sûr qu'elles sont mignonnes. Tu pourras te régaler les yeux tant que tu voudras. C'est ça la solution, je n'y avais pas pensé. Si j'annonce aux parents que je pars avec mes 2 super copines que je connais depuis la maternelle, ils ne pourront pas me dire non. Mais elles, je ne sais pas si elles pourront. Il faut que je leur en parle lundi. Dès que tu le sais, dis-le-moi vite que je remplisse le congèle de glace. Les filles adorent les glaces, non? Au lieu de dire n'importe quoi, si tu me racontais comment tu as pu avancer notre enquête. Ah oui, voilà. Une fois, j'ai suivi Jean-Claude Martin, depuis son bureau jusque chez lui. Ça ne m'a pas apporté grand-chose, sauf que j'ai pu repérer où il habite. Une grosse baraque en pierre sur la presqu'île de Gien. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que j'ai pu entrer en contact avec sa secrétaire, une petite blondinette marrante. Stéphane me regarda bien dans les yeux en me disant ça, pour voir ma réaction. Si une pointe de jalousie me piqua bien le cœur, je fis un effort pour ne pas le laisser paraître. « En fait, reprit Stéphane, j'ai pris l'habitude d'aller régulièrement chercher des pièces chez Martin et Monnier. Petit à petit, en faisant attention, j'ai repéré les têtes des employés, les trois vendeurs à la banque, les commerciaux qui vont et viennent, et même les mécaniciens qui travaillent à l'atelier, car je leur ai porté une fois un moteur à réviser. Il y a trois filles qui bossent là-bas, une qui fait la standardiste et qui remplit toutes sortes de paperasses. Elle est dans une cage vitrée et accueille les clients qui veulent un renseignement. C'est elle aussi qui encaisse les règlements comptants pour ceux qui ne sont pas en compte. Tu t'en souviens peut-être, elle était là lors de notre première visite. La deuxième, c'est la comptable, elle est vraiment canon, mais elle ne sort presque jamais de son bureau. Elle ne s'occupe que de ses chiffres. Et enfin, Henriette, la secrétaire de direction, une petite blondinette bien sympathique. Elle, on peut la croiser partout. Toujours en vadrouille, elle s'occupe de plein de trucs. Tous les employés préfèrent avoir affaire à elle plutôt qu'au patron. Et le patron, ça l'arrange de lui donner ses instructions. À elle de les transmettre à tout le monde. C'est une fille vraiment sympa, et en plus, ça a l'air d'être une tronche. Elle gère facilement 15 problèmes à la fois. Elle doit avoir un ordinateur dans la tête. Bref, un matin, il devait être 11h30, j'étais allé chercher un bidon d'huile, un filtre à huile et un filtre à gasoil. C'était Thierry, le plus jeune des vendeurs, celui avec lequel je discute bien, qui me servait. Nous sommes partis dans les rayons chercher ce qu'il me fallait et tout à coup il me dit « Je ne sais pas ce qui se passe avec le patron, mais ce matin il a eu la visite des flics. Ils sont restés une heure dans son bureau. Ce n'étaient pas ceux en uniforme, plutôt des inspecteurs, mais ça se voyait que c'était des flics. » Quand j'eus signé mon bon de livraison, je suis sorti avec mon bidon et mes deux filtres. Il était midi passé. Henriette, la secrétaire de M. Martin, est sortie en même temps que moi. C'est même elle qui m'a tenu la porte. On a échangé deux mots sur le temps, et là je me suis dit « Mon vieux, c'est le moment ou jamais, jette-toi à l'eau. » J'ai pensé à toi, et ça m'a donné le courage qui me manquait. Je lui ai dit « J'aurais bien voulu vous parler de quelque chose. » Comme elle ne répondait pas, attendant que je précise, j'ai continué. « Vous accepteriez si je vous offrais l'apéritif ?»« Oui, pourquoi pas » m'a-t-elle répondu avec un joli sourire. « Eh bien, tu vas te faire une jolie réputation si tu offres l'apéro à toutes les belles minettes que tu croises. »« Tu ne serais pas jalouse par hasard ?»« Mais tu vas voir que j'ai très bien fait de l'inviter. » Je n'étais pas vraiment jalouse, mais tout de même, cela me faisait quelque chose d'imaginer Stéphane cherchant à séduire une jolie fille, même pour les besoins de l'enquête. Il reprit. Nous nous sommes retrouvés à une terrasse sur le port. J'ai décidé de tout lui raconter pour voir sa réaction. Le risque était qu'elle rapporte nos soupçons à son patron et j'aurais été grillée, mais je jugeais que ça valait le coup de prendre ce risque pour contacter un informateur aussi bien placé. J'ai attaqué franchement. Je suis parti de la visite des flics du matin. Je lui ai raconté la disparition mystérieuse d'Antoine Monnier, les recherches que nous avons entreprises et nos doutes sur l'intégrité de Jean-Claude Martin. Elle a fait une de ses têtes, c'était impressionnant. Elle a réfléchi un moment en sirotant son pastis, sans relever les yeux, puis après réflexion, elle m'a regardé et elle m'a dit qu'effectivement, Jean-Claude Martin était un homme mystérieux et intrigant, et qu'encore, elle n'était pas au courant de tout, loin de là. Après une minute de réflexion, elle s'était lâchée. Depuis 2 ans qu'elle était à ce poste chez Martin et Monnier, elle avait été témoin d'un certain nombre d'irrégularités de gestion que le secret professionnel l'empêchait de me révéler. Plusieurs fois, elle avait été intriguée car Jean-Claude Martin l'avait éloignée pour traiter certaines affaires. Elle avait toujours été plus à l'aise avec Antoine Monnier, plus droit et plus humain. Elle s'était bien rendue compte que le climat de confiance se dégradait entre les deux hommes sans en connaître vraiment la cause. Et maintenant, elle sentait bien que Jean-Claude Martin traitait des affaires pas très claires. Cela lui posait un cas de conscience. Devait-elle se taire et couvrir son patron quoi qu'il fasse, ou parler pour dénoncer ses opérations, sans doute au-delà de la légalité, qui risquait de la compromettre elle-même. Mais elle n'avait aucun élément déterminant à confier à la police, seulement de mauvaises impressions et quelques irrégularités comptables dont elle ne pouvait deviner la portée. Tout cela se terminera très mal. Je suis obligée de fermer les yeux sur certaines choses. Ce qui fait que je risque ma place, je risque ma réputation et ma carrière, et peut-être même la prison, selon ce qui se cache derrière. Elle avait l'air assez désemparée. Nous avons décidé de manger ensemble sur place. Je ne voulais pas la forcer à me confier des secrets qu'elle n'avait pas à me dire et auxquels je n'aurais sans doute rien compris. Je m'efforçais de la rassurer. Pour la mettre en confiance, je lui ai dit que nous étions toute une équipe sur le coup, dont Madame Monnier qu'elle connaît. Elle m'a répondu qu'elle était prête à coopérer avec nous et m'a annoncé qu'elle allait constituer un dossier avec toutes les irrégularités et les bizarreries qu'elle pourrait constater dans la gestion de Martin et Monnier et les rapports avec son patron. Ce dossier, elle le tiendra à la disposition de la justice quand le moment sera venu. « Mais c'est fantastique !» dis-je en prenant Stéphane par les épaules. « Tu as fait un boulot formidable. Grâce à toi, nous avons un indice dans la place. C'est tout simplement génial. Jamais je n'aurais imaginé qu'on puisse faire ça. Je suis vraiment fière de toi. »« C'est quand même grâce à toi. »« Grâce à moi ? Mais je n'étais même pas au courant. » « Peut-être, mais c'est bien en pensant à toi que j'ai trouvé le courage de faire tout ça. »« Et pour tes cours sur Lyon et la reprise du chantier dans 2 ans, c'est de ma faute aussi ?»« Oui, un peu, c'est sûr. »« Stéphane, il est peut-être temps d'aller dormir. Demain, il va falloir que je bosse un peu. Thibault t'invite à partager sa chambre. Il a 2 lits, mais il n'en utilise généralement qu'un seul. Ça te va ?» Stéphane et Thibault s'entendirent à merveille à partir du moment où ils commencèrent à parler technique. Aussi, bien que cela me coûtât, je pus passer la matinée suivante à réviser dans ma chambre. La fenêtre ouverte, je les entendais tous les deux discuter dans l'atelier. Stéphane était de première force pour tout ce qui concernait le travail du bois et il avait de bonnes notions de mécanique. Pour le reste, plomberie, électricité, maçonnerie, couverture et autres, Thibault, sans être professionnel, avait plus de connaissances. En début d'après-midi, je proposai à Stéphane une promenade le long de la rivière. En fait, je commençais par lui faire visiter la maison, ce que, curieusement, Thibault n'avait pas eu l'idée de faire. Ensuite, tout en marchant, nous parlâmes de sa nouvelle vie. Comment il allait se loger à Lyon? Qui allait financer ses études? Quel diplôme il espérait obtenir? Avait-il des projets pour moderniser le chantier? Je lui parlais aussi de la dernière lettre d'Yvette et des recherches de la police qui, après avoir interrogé Jean-Claude Martin, avait fini par déclarer forfait. « Heureusement que nous sommes là, » conclut Stéphane. « Heureusement que tu es là, » corrigeai-je. « C'est toi seul qui fais avancer notre affaire. Je vais enfin pouvoir répondre à Yvette en joignant à la mauvaise nouvelle de l'arrêt des recherches officielles la bonne nouvelle que tu m'as apportée. Il ne me manque plus que l'accord des parents pour cet été, mais j'espère bien l'avoir très vite. » Le lendemain après-midi, empruntant la voiture de maman, Thibault nous emmena tous les trois, plus les jumeaux, voir une course de fun car qui avait lieu à 20 kilomètres. Je n'en avais jamais vu et j'avoue que le spectacle valait le déplacement. Ces voitures, toutes bariolées et blindées, au point qu'on n'arrivait plus à reconnaître les marques et les modèles, qui se lançaient comme des folles sur un circuit en 8, se bousculant les unes les autres, faisant des tonneaux ou se poussant pour s'éjecter hors de la piste. Je ne savais plus où regarder, tellement il se passait de choses démentielles sur ce 8. Je n'avais pas très bien compris les règles, mais les manches s'arrêtaient lorsqu'il n'y avait plus guère que 2 ou 3 voitures qui roulaient encore, alors que les autres gisaient dans toutes les positions, sur les talus ou au beau milieu de la piste. Les spectateurs étaient très enthousiastes et nous avons passé un très bon moment. À l'entracte, les garçons, y compris Rémi qui voulait tout voir, filèrent vers les stands des différentes écuries, passèrent par-dessus ou par-dessous les barrières qui en interdisaient l'accès au public et allèrent examiner les bolides de plus près. Ils purent même discuter conduite ou mécanique avec les pilotes et les mécaniciens. Ils revinrent ravis de me rejoindre avec Agnès pour la 2e mi-temps. Stéphane reprit le train pour hier, le dimanche en début d'après-midi. J'avais passé en sa compagnie un merveilleux week-end et je pris tout à coup conscience que j'étais en train de devenir amoureuse. Je crois que les jumeaux, les parents et même Thibault avaient été plus perspicaces et s'en étaient rendus compte avant moi. Il n'aurait pas fallu me pousser beaucoup pour que je monte dans le train avec lui, avec ou sans billet. Mais je me consolais en pensant que dans quelques semaines, nous nous retrouverions chez lui au bord de la mer et que nous aurions encore plein de bons moments à vivre tous les deux. Dès le lundi matin, j'interrogeai mes deux copines, Amélie et Ursula. Je profitai de notre petite conférence quotidienne de 10 heures, car à 10 heures, l'intercours était un peu plus long, pour les inviter à des vacances spéciales au bord de la mer. Trajet payé et logement fourni, avec comme activité principale recherche d'un clochard disparu. Bien sûr, mes deux amies étaient au courant de mon récent voyage ailleurs et de la progression de mon enquête. Elles furent tout de suite enthousiastes à l'idée d'y participer. Si, de plus, cela se passait au bord de la mer, c'était le rêve. J'eus donc leur accord de principe immédiatement à confirmer par les autorisations parentales, car aucune de nous trois n'était encore majeure. Amélie avait bien un plan pour un job d'été en juillet, mais elle avait un peu négligé de s'en occuper et elle ne savait plus trop si la proposition tenait toujours. « Tant pis, dit-elle, gagner de l'argent, on a toute notre vie pour le faire, alors qu'un plan enquête entre copines à la mer, ça n'arrive qu'une fois dans la vie, il ne faut surtout pas le rater. » « Je sens qu'on va s'éclater toutes les trois !» conclut Ursula, tout excitée. Le soir même, je décidai de prendre le risque d'en parler aux parents. J'avais très peur de leur verdict, mais il fallait absolument que je sache. Après dîner, je demandais à leur parler seul à seul. Je ne tenais pas à ce que les jumeaux viennent mettre leur grain de sel dans mes affaires. On ne peut pas dire que ma proposition les enchanta. Ils trouvaient que mon aventure présentait encore un certain nombre de risques. En même temps, ils s'attendaient à une proposition de ce genre et ils durent convenir que je m'y étais bien prise. Le fait de faire le voyage à trois et d'aller loger dans la maison de Stéphane, dont ils avaient fait la connaissance et dont ils avaient pu apprécier le sérieux, tout concourait à aplanir les difficultés. J'eus donc, avec quelques réticences, l'accord tant désiré. Je vis bien qu'ils auraient préféré me voir partir en stage de tennis avec le club local, ou entrer au supermarché du coin pour un job d'été, mais j'avais une autre idée et j'y tenais fermement. Alors, dans la mesure où je faisais tout pour ne pas prendre de risques inutiles, ils n'avaient pas de raison de me refuser leur accord. Les parents d'Amélie et d'Ursula, plus inconscients encore des risques que nous allions prendre, ne mirent aucune objection à ce que leurs filles respectives aillent passer des vacances entre copines au bord de la mer. Ainsi ai-je pu écrire un mot à Stéphane et à Yvette pour leur annoncer que tout était arrangé et que nous serions sur place ailleurs dès le 5 juillet, c'est-à-dire sitôt le dernier oral du bac passé. Quelques jours plus tard, les épreuves du bac commencèrent. Pour moi, tout se passa bien. J'eus quelques hésitations en maths, qui ne sont pas ma matière forte, et un oral d'anglais déstabilisant. L'examinateur me posa sèchement 3 questions précises sur le texte qu'il avait choisi, puis il écouta mes réponses sans dire un mot, ni même un signe d'encouragement. Quand je n'eus plus rien à dire, il me demanda « That's all ?» et il me congédia sans autre commentaire. À la fin des épreuves, j'estimais que je devais être reçue, mais pour la mention, je n'osais me prononcer.